Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Voilà, on est de retour. Comme on l'avait annoncé la semaine dernière, c'est l'ère du jeu, votre rendez-vous qui parle de jeux vidéo, de high-tech, d'e-sport, de littérature. Et j'en oublie probablement. Donc voilà, bon, on va faire simple. On parle un peu de l'univers geek. On est ensemble de 12h à 13h sur Radio Canu. Je le rappelle, Radio Canu 102.2.fr. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont tombés dessus par hasard. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Dream Team. Il fait chaud aujourd'hui. On est beaucoup. Donc c'est chouette. Ça fait plaisir. Notamment grâce à Griff, d'ailleurs. Griff qui est là.
Merci beaucoup.
Comment tu vas, Griff?
Ça va et toi?
Eh ben écoute, la forme, ça fait plaisir de voir du monde, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va vous faire découvrir. On a Lucie qui est revenue.
Bonjour.
Comment tu vas, Lucie?
Ça va.
Lucie qui était venue, qui passait par hasard. On l'a mis devant un micro et puis hop, là, on l'a lancé.
Depuis, elle est devenue chroniqueuse radio.
C'est ça.
Excellent.
J'ai trouvé une vocation, c'était une expérience inoubliable, ici encore.
Et en plus, t'avais grave géré, tu sais, je me souviens, elle nous avait fait des références et tout, on s'est dit,
waouh,
en fait,
c'est passait pour des débiles à côté, tu sais, c'est bien, j'étais une conférence à Paris et tout.
C'était la chance du débutant.
On a Pierre qui est revenu. Pierre Kuhn.
Salut.
Comment tu vas?
Bah ça va très bien.
Donc t'étais déjà venu il y a un petit moment, t'es parti au Japon.
Et oui.
Et là le comeback.
Ça y est, on est de retour.
Ouais, c'est vrai que ça pourrait valoir le coup de te poser quelques questions sur le Japon.
Oui, c'était très intéressant.
Tu dois avoir pas mal de choses à raconter.
De belles histoires.
Est-ce que t'as fait de la radio au Japon?
Non, j'ai pas fait de radio au Japon.
Ça a été compliqué.
J'ai écouté de la radio un petit peu, mais compliqué de passer.
Je sais pas comment tu gères le japonais, mais c'est vrai que ça doit être...
Je le gère comme quelqu'un qui sait faire des courses et demander un billet de train.
Voilà. Donc, pour la radio Canu en japonais.
Non.
Et on a donc notre invité.
Salut.
De la journée, Alexandre.
Salut, enchanté.
Donc Alexandre, on va lui faire une interview dans un instant. Bah du coup, j'enchaîne sur le sommaire. On va parler donc avec Alexandre de ce nouveau métier, consultant e-sport, voire même de l'e-sport peut-être.
E-sport en général, ouais.
Ensuite, donc dans une deuxième partie, on parlera d'e-sport et de télévision, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des programmes qui sont arrivés sur la télévision. On va essayer de voir ce que ça donne. On va essayer d'avoir vos avis aussi, pour voir si c'est quelque chose de viable ou pas. Ensuite, bah on aura l'éternel sac de news, voilà. Donc on a quelques chiffres de la Nintendo Switch, quelques actus cinématographiques aussi, voilà, qui entraînera des vidéos directement d'ailleurs sur le Facebook de GameAge, voilà. D'ailleurs, vous pouvez réagir ou réécouter les émissions sur le Facebook de GameAge, l'association donc qui réalise le tout. Vous pouvez réagir en direct via le hashtag R du jeu, RDUJEU. C'est toujours le moment de pression. Et bien entendu, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires, à réagir en direct. On fera un petit tour de table pour savoir où on peut vous retrouver aussi.
Ça marche.
Sauf si vous voulez le faire tout de suite, si vous voulez le dire tout de suite.
Peut-être à la fin, non?
Ouais, à la fin.
Faudra bien prendre 10 minutes vu le nom qu'on est, mais c'est pas
ça. Ouais, ça marche. Vendu. Eh ben, écoutez, là, on va commencer de suite, si ça vous va, avec Alexandre. Alors, je vais essayer de faire mon lancement. Je vais le changer un peu aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Mais c'est parti.
Yoga Fire!
Voilà, j'ai changé un peu, contrainte technique, le Yoga Fire, on est chaud bouillant, c'est parti. Eh ben déjà Alexandre, alors est-ce que très rapidement tu peux te présenter?
Donc voilà, je m'appelle Amur Alexandre, mon pseudo dans l'e-sport c'est Apsi.
Voilà.
Et je suis un consultant e-sport depuis maintenant un an et demi environ. Donc j'accompagne les entreprises et les structures e-sport, les équipes, ainsi que quelques joueurs, dans leur démarche niveau les partenariats, la gestion de leur réputation en ligne, gestion des réseaux sociaux, de leur communication, tout ça.
D'accord. Alors est-ce que vous connaissiez déjà, vous, tout de suite je vous mets dedans là, autour de la table, est-ce que vous connaissiez déjà ce métier, consultant e-sport? Toi, Griff?
Depuis une semaine.
Depuis une semaine. Toi, Lucie?
Bah depuis 5 minutes.
Depuis 5 minutes, ok. Et toi?
Après, depuis 3 minutes, du coup, comme je regarde.
C'est vrai que j'ai eu le droit de le savoir hier soir. Voilà, je ne savais pas.
Donc, j'ai été invité hier soir également. Donc,
Bah merci. Bien joué, Griff, bien joué. Alors, explique-nous un peu vraiment ton quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des structures e-sportives, des structures professionnelles, j'imagine,
ouais,
c'est ça?
Et beaucoup de joueurs ou de gens qui veulent se lancer dans le milieu.
Voilà, alors juste, on va rappeler pour ceux qui connaissent pas forcément, hein, l'e-sport, tout simplement, c'est des compétitions professionnel de jeux vidéo, on peut
c'est
dire ça.
Ça exactement.
Ok, je suis bon pour l'instant. Et donc toi, en fait, c'est des gens qui viennent vers toi, c'est ça?
Ouais.
Pour se lancer?
Ça, bah, il y en a, c'est pour se lancer dans les sports, qui aimeraient en vivre, en fait. Mmh. Et, d'autres qui sont déjà installés, en fait, dans le milieu, qui ont déjà un nom, et qui cherchent à faire, par exemple, une campagne de promotion, qui cherchent à gérer leurs réseaux sociaux, à faire des partenariats avec des entreprises, des OPSP, par exemple. Ils veulent, par exemple, faire une émission en ligne. Mmh. Et, ils aimeraient bien que des studios les payent pour jouer à leur jeu. Donc, ils viennent me voir moi, et moi, après, je les mets en relation avec les studios, tout ça.
Waouh! Mais en fait, c'est un gros rôle, en fait, que t'as, là. Donc, ça veut dire, par exemple, prenons Lucie. Lucie qui est ici. Elle
Bonjour.
Se dit.
Toujours moi.
Elle se dit, Lucie, tiens, j'ai envie de me lancer, dans l'e-sport.
Ouais.
Tiens, j'ai envie de me lancer dans l'e-sport.
Voilà.
Super! Je vais parler.
Alors, donc, elle te rencontre.
Ouais.
Et toi, tu lui dis quoi, concrètement?
Ah, bah, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire dans l'e-sport, déjà?
Alors, qu'est-ce que tu veux faire dans l'e-sport, Lucie?
Eh ben, c'est une bonne question.
Ah, ben voilà.
Qu'est-ce qu'elle peut faire dans l'histoire?
Alors, elle peut faire plein de choses. Ouais. Elle peut être streameuse, donc animer une émission en live sur Internet.
Ouais.
Elle peut être joueuse sur un jeu sur lequel elle est forte. Elle peut être membre staff, elle peut faire partie de structures, d'associations, et elle peut développer le milieu sous plein d'aspects différents. Elle peut aussi organiser des compétitions, des tournois.
D'accord. Alors, mettons, elle veut être streameuse. Tu veux être streameuse?
Ah oui. Complètement.
Voilà, elle veut être streameuse.
Vocation.
Alors comment ça se passe du coup? Surtout que c'est un truc à la mode, le stream en ce moment, je pense.
C'est de moins en moins.
Ah ouais.
Pendant un moment, beaucoup de gens se sont lancés car en fait c'est un peu comme sur YouTube, ils se sont dit c'est facile, c'est de l'argent facile et tout. Sauf que bon, maintenant les streamers connus sont assez implantés et c'est difficile un peu de leur piquer de la communauté en gros guillemets, parce qu'on ne vole pas vraiment de l'audience, mais on se la partage plus. Mais ça reste très compliqué parce qu'il y a énormément de gens qui sont lancés et en fait c'est très dur de dépasser le cap même des 10 personnes qui nous regardent en même temps.
Donc, oui, c'est carrément un cap quoi, 10 personnes.
Il y a le premier cap, c'est 10 personnes. Dès qu'on a 10 personnes qui nous regardent, on a déjà des gens qui viennent assez régulièrement.
Mais YouTube, c'est un peu la même chose finalement.
Ouais, c'est
mais,
ça.
Je pense que le streaming, c'est encore plus difficile que YouTube, tout simplement parce que sur le streaming, si vous voulez que ça marche, faut vraiment être régulier et puis streamer des heures quoi. Là, tu peux pas
c'est 4 heures par jour parfois.
C'est ça, tu peux pas streamer 30 minutes et dire OK, c'est bon quoi.
Non, clairement pas, c'est
30 minutes, les gens commencent à peine à arriver.
Donc ça veut dire que Lucie, donc elle devrait se dire bon bah là, il faut que je me prévoie des plages de 3-4 heures pour streamer
régulièrement pour fidéliser la communauté. C'est vrai que le problème qu'il y a avec YouTube, c'est qu'il y a la ligne de YouTube, on la regarde un peu quand on veut.
Ouais, ouais.
Un stream, si on le regarde après, bah, ça devient un peu une vidéo, en fait. C'est vraiment différé, donc ça perd beaucoup de son intérêt. Donc, il faut arriver à être régulier, et surtout ne pas manquer ces plages horaires parce que c'est du live, quoi. Donc, c'est super compliqué.
Et c'est toi là-dessus, tu vas la conseiller pour les plages horaires, pour
tout ce genre de trucs? Pour, tout ce qui est plages horaires, pour la manière de gérer sa communauté, parce qu'en fait, un streamer, c'est un personnage public avant tout, en fait, quelqu'un qui va fédérer des joueurs et des fans autour de lui. Donc, c'est ça que c'est compliqué, en fait. C'est pas vraiment compliqué de jouer, de commenter en live.
Ouais.
Ce qui est surtout compliqué, c'est d'arriver à se créer une communauté qui va être fidèle et qui va nous suivre avec le temps et qui possiblement dans le futur va faire des dons, en guillemets, car c'est pas vraiment des dons juridiquement parlant, mais qui va donner de l'argent aux streamers pour l'encourager, parce que ça va être un des seuls moyens de revenus avec les placements de produits et la publicité. D'accord. Donc voilà, donc moi j'ai conseillé tout ce qui est autour, donc comment déjà bien gérer ses outils, bien gérer sa régie, bien gérer ses logiciels, son matos, comment bien arriver à faire une communauté, comment faire marcher les réseaux sociaux, comment en fait arriver à passer les caps petit à petit. Et puis une fois si le streamer est déjà assez connu, qu'il a déjà une bonne base de viewers, on va dire minimum 500, qui est on va dire un cap, en fait à partir de 500 viewers plus ou moins régulièrement, on peut arriver à plus ou moins en vivre.
Ah ouais.
Ouais, c'est une moyenne, mais généralement, ça dépend qu'on a fait dans la communauté, parce que il y a des streams qui ont 5000 personnes qui regardent, mais
qui
n'ont pas réussi à fédérer leur communauté en termes d'argent, en fait.
D'accord.
Qui n'ont pas réussi à faire en sorte que la communauté fasse des dons, regarde les pubs, ou des choses comme ça. Et d'autres qui, à 500, gagnent énormément d'argent parce que, justement, ils ont tout accès là-dessus.
D'accord. Alors, bah du coup, j'ai envie de te poser la question, toi, de comment t'es arrivé là-dedans, et puis, oui, comment t'es arrivé dans ce milieu-là?
Et ben justement par le stream, en fait.
D'accord,
j'ai commencé à streamer, sur le jeu Hearthstone.
Ouais.
J'ai commencé au tout début du jeu, pendant que c'était encore la bêta, j'étais le seul, en fait.
C'était il y a combien de temps, à peu près?
C'était il y a 4 ans.
Il y a 4 ans?
Ouais.
Ça allait vite, alors, du coup, parce que...
Ah, mais ça va, mais de toute façon, le monde du web, en général, est très rapide, surtout sur un milieu naissant comme l'e-sport, en fait, parce que, même si on peut dater l'e-sport depuis limite le début de jeux vidéo, enfin, depuis qu'il y a du scoring dans les jeux vidéo, le moment où on peut vraiment dire que c'est une profession rémunérée, et qu'on peut en vivre, ça date de 5 ans maximum, quoi. Avant, il y a 5 ans, c'était impossible d'en vivre. Il y a 4 ans, on pouvait un peu commencer. Et il y a 3 ans, c'est là que les gens ont compris, en fait, qu'il y avait un potentiel qui était énorme. Et c'est depuis là que ça a décollé. Et là, ça fait un an et demi, je pense, que les entreprises, elles, ont compris et commencent vraiment à mettre beaucoup d'argent dans le milieu et commencent à mettre des fonds, à subventionner, à faire beaucoup de partenariats et à vraiment mettre des millions et des millions dans le secteur.
Alors juste pour faire un petit tour de table, vous, autour de la table, vous vous en rendiez compte, vous, de l'évolution de l'e-sport, surtout ces trois dernières années, ou pas tellement, vous l'avez pas trop vu? Toi, Pierre Hakoun, tu l'as vu?
Si, bah, forcément, quand on s'intéresse dans le milieu, bah, c'est vrai que dans le passif, moi j'ai travaillé avec Griff en faisant du stream aussi. Du coup, ouais. Même nous, si on était sur une échelle bien plus petite, tout est relatif, quoi. Mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui se bouge entre des grosses structures qu'il y a pu y avoir chez Gaming Live, par exemple, qui ont monté pas mal. Derrière, aujourd'hui, moi, je m'en rends compte avec Squeezie qui lance sa chaîne aussi. Et TF1, les chaînes de télé dont on va parler, j'anticipe un petit peu sur le sujet d'après, mais forcément quand on voit qu'il y a des gros médias comme ça qui là ont des moyens beaucoup plus importants et qui commencent à s'intéresser à tout ça, on voit que l'évolution effectivement c'est rien à voir à ce qu'il y avait il y a 3-4 ans quoi.
Toi Lucie, t'es e-sport ou pas trop? Tu suis un peu ou pas du tout?
Alors moi personnellement je suis pas trop l'e-sport, mais après je travaillais avant comme community manager à DigiWave TV, donc je me quand même le truc s'est développé. Après, si j'ai remarqué par rapport à moi ce que je regarde, ce genre de choses, des magazines en ligne comme Mademoiselle, ils ont lancé également maintenant des streams, e-sport. Oui, alors qu'à la base ils font plus des débats ou ce genre de choses en stream sur YouTube. Maintenant, ils se sont lancés aussi dans l'e-sport. Ils sont assez polyvalents et je me suis dit tiens, c'est fou, même eux ils s'y mettent. Enfin.
Ouais. Donc comme tu disais, hein, les grosses entreprises. Toi, Griff, ton ressenti par rapport à l'évolution de l'e-sport là, actuellement ?
Oui, bah, c'est vrai que ça évolue très vite parce que maintenant les grosses entreprises commencent à mettre de l'argent. Je pense que ça a vraiment commencé avec Ubedia qui rachète Millennium, Eclipsia aussi qui a beaucoup.
Qui est de bons investisseurs aussi. Il y a Dassault derrière, il me semble, derrière Eclipsia.
Ah oui. Ouais, c'est ça. mais avant, à l'époque où en gros. Les choses ont beaucoup bougé, que les audiences ont commencé à être folles, qu'on a commencé à dépasser du streaming. Hein.
Faut
remettre les choses dans leur contexte par rapport à la télévision.
On a dépassé les 1 million de viewers simultanés, même.
Ouais, donc
ce qui est assez énorme en stream, sur un même stream, en fait, sur une même émission.
Oui,
ce qui est assez énorme. En comptant qu'une émission de télé, par exemple, n'importe qui peut tomber dessus juste en zappant.
Ouais.
Alors qu'un stream, il faut un, connaître la plateforme qui est Twitch, et tout le monde ne la connaît pas. Et deux, connaître le streamer et aller spécifiquement sur sa chaîne à lui.
Ouais,
donc c'est vraiment un public qui est spécialisé, un public de niche très très particulier. Et dépasser le million de personnes simultanées, c'est quelque chose de juste faramineux en fait.
C'est clair, c'est même peut-être meilleur que certaines chaînes nationales.
Ah mais clairement.
Donc ouais, belle audience. Alors du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais, toi, donc t'as commencé via le stream de Hearthstone, c'est ça?
Exactement.
T'as commencé à en vivre tout de suite, t'en as jamais vécu? Comment ça s'est passé sur Hearthstone alors?
Alors pour commencer à en vivre, enfin c'est très très compliqué.
Ouais.
Donc moi à l'époque je faisais environ 500-600 viewers.
Oui, donc
ce qui était très conséquent pour l'époque, sachant que les plus gros
français, vraiment,
les plus gros français étaient à 1500, ce qu'aujourd'hui sont à 2000, ils étaient à 1500 à l'époque.
Surtout qu'on parle d'Hearthstone, pour rappel, c'est un jeu de cartes.
C'est un jeu de cartes qui est assez lent,
voilà,
il n'y a pas beaucoup d'entertainment derrière, hein. On va pas crier, on peut. Mais c'est vraiment dans les cartes spécifiques, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Puis j'ai arrêté, j'étais devenu coach pour une structure qui s'appelle Gamers Origin, où je suis pas resté très longtemps parce que mon niveau a vite été dépassé par les joueurs et par les autres coachs qui arrivaient. Et puis après, je suis parti dans le staff. J'ai géré une association lyonnaise à l'époque qui s'appelait GSI Gaming. J'assistais en fait le directeur.
Ouais.
On a fait des équipes de niveau européen sur le jeu League of Legends. Après de passer sur O-Gaming, qui est certainement la plus grosse chaîne de stream européenne.
Européenne carrément même.
Ouais, ils sont européens, top européens. En niveau de chaîne vraiment multi gaming, pas en tant que streamer individuel, mais vraiment en tant que TV, web TV, ils sont, je pense qu'ils sont top européens, top français c'est certain.
Ouais. Mais par contre sur Hearthstone, ils sont jamais vraiment développés.
Ils ont pas réussi.
Non.
Ils ont loupé le coche et Gamers Origin l'a pris à l'époque et c'est pour ça que Gamers Origin en fait est devenu une des top équipes françaises car ils ont réussi à prendre le coche de Hearthstone qui est devenu phénoménal. Et là j'ai été recruté donc chez Punchline Esports Club.
D'accord.
Qui était donc une équipe également française, mais qui n'était pas située plus dans une ville, qui était vraiment au national. Et puis on a dû fermer. J'ai rejoint Millennium Québec, Donc c'est les premiers qui ont été rachetés par Webedia justement, qui était, qui, enfin même aujourd'hui, Millennium c'est la plus grosse communauté française de jeux vidéo, quelque chose d'assez énorme. Donc moi j'ai, je suis parti à ce moment-là en fait à Montréal.
D'accord. C'est exporté quand même, ouais.
Je me suis exporté. Donc j'étais là-bas, je gérais le marketing et je conseillais le président donc de la, enfin le gérant plus de Millennium Québec. J'en ai profité pour étudier le marché québécois. Et puis après, je suis revenu en France, donc là, l'été dernier.
À Lyon.
À Lyon.
Alors, c'est vrai que du coup, là, avec ton parcours que tu as eu, je me serais dit, tu serais peut-être plus allé dans des villes plus e-sportives.
À Lyon, c'est pas mal quand même, niveau
Lyon,
e-sport.
Hein. Ça se développe quand même.
Les premiers, c'est Paris, c'est incontestable, en fait. Mais quand on voit que Paris, c'est à 2 heures de TGV. Et qu'en plus maintenant la SNCF a sa carte illimitée là. Bah ce fait c'est vachement cool, enfin c'est ultra simple d'aller un peu partout.
Mais du coup alors t'es venu à Lyon pour des raisons professionnelles vraiment ou c'est parce que c'était...
Non, c'est professionnel, c'est parce qu'en fait c'est central en France et qu'on peut aller un peu partout facilement dans toutes les conventions, dans tout voilà.
Bon bah Millionnais déjà, sachez que voilà, si vous aimez bien l'e-sport, sachez que Lyon c'est quand même un endroit central.
Bah
central.
Ça se développe énormément, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça en fait, qui avant qui étaient ailleurs, qui étaient à Toulouse, qui étaient à Paris, qui déménagent à Lyon en fait parce que ils sont
en train de bouger en fait. Non,
c'est ça.
Ils se rendent peut-être pas forcément compte mais
ça bouge énormément.
D'un point de vue même start-up numérique, d'un point un peu plus large, du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait chez Orange et qui gère la partie start-up incubateur. Et apparemment, Lyon commence à être un peu surnommé la Silicon Valley, Valley française.
Concernant l'e-sport,
Et l'e-sport, même le numérique, en fait.
Même le numérique, parce que
même
je sais
le Lyon French Tech, par exemple, c'est une des French Tech les plus actives et les plus, avec le plus de dynamisme. Du monde en fait.
J'avais lu un article l'année dernière dans un grand magazine de management qui justement disait que aujourd'hui Paris, donc l'on reste sur Paris, avait dépassé vraiment la Silicon Valley en termes de start-up et d'incubation en fait de jeunes entreprises parce que c'était juste énorme, c'était un Eldorado qui était absolument génial, surtout avec Xavier Niel qui crée son incubateur et tout et donc ça devient génial et c'est vrai que beaucoup de gens qui sont dans l'e-sport, il y a quand même beaucoup moins de moyens en fait que dans le web en général. Bah en fait c'est plus pratique parce que justement on paye moins cher les loyers, on paye moins cher les locaux et vu qu'une grande partie des choses se font sur le web quoi qu'il arrive via des logiciels de discussion, choses comme ça. Et ben en fait c'est pas la peine d'être vraiment sur place et Lyon en fait c'est limite parfait pour
c'est une bonne alternative.
Exactement.
Alors du coup toi ton activité de consultant e-sportif, du coup est-ce qu'aujourd'hui t'en vis, tu le développes, comment ça se passe, t'en es où par rapport à ce projet?
Alors aujourd'hui j'en vis plus ou moins. Ça reste compliqué parce qu'en fait ça dépend vraiment des clients qui viennent parce qu'en fait la rémunération se fait généralement à la mission et on prend un pourcentage des échanges financiers qui sont. Alors on peut prendre environ 10%, 15%, 20% d'argent sur un placement de produit à 10 000 euros, je vais prendre 1500 euros, 1000 euros, ça dépendra. Donc c'est pas ultra simple d'en vivre parce que comme j'ai dit ça dépend, mais sur Paris ce serait impossible. Sur Lyon, ça se fait.
D'accord.
Donc voilà, et puis ça se développe de plus en plus. J'ai des tonnes et tonnes de projets qui viennent en fait tous les jours. Tous les jours, je reçois une dizaine de mails. Je peux pas tous les prendre parce qu'ils sont pas tous très intéressants. Et il y a beaucoup de gens qui demandent du bénévolat parce que l'e-sport a commencé sur une base de bénévolat. Aujourd'hui, on se rattache de plus en plus, mais des gens ont quand même du mal à se dire, bah, faut payer en fait.
Et maintenant, ça devient une profession.
C'est ça, mais quand il y a des gens qui viennent nous voir et qui demandent qu'on leur fasse un logo pour leur entreprise et qui veulent payer 10 euros. C'est short quoi.
Oui, ben pour arrondir les fins de mois.
C'est ça. Et si encore ils veulent payer quoi.
Mais du coup t'es tout seul ou vous êtes plusieurs alors dans votre équipe?
Alors moi je, enfin en fait on est tous plus ou moins freelance.
Ouais.
Mais je travaille avec plusieurs personnes, notamment avec la personne qui gère les partenariats dans l'entreprise Hitbox qui est concurrent à Twitch. Et en fait on travaille tous les deux, donc il est également sur Lyon. Avant il était à Toulouse, il a déménagé sur Lyon il y a 2 mois.
D'accord. Okay.
Et en fait, à nous deux, on forme en fait une équipe. Et en fait, on a une portée nationale, voire européenne, voire même les États-Unis et le Canada avec mon année que j'ai passée là-bas. Et c'est comme ça, en fait, avec ce réseau qu'on a étendu, qu'on arrive à avoir une bonne portée. Surtout qu'en fait, ensemble, on a créé un gros réseau qui s'appelle Acteurs Esport France, qui en fait rassemble tous les acteurs français, je pense. Qui sont vraiment la pointe française. On est 300 membres, il y a 60 structures qui sont répertoriées. Et en fait, c'est un réseau networking absolument géant. Et on peut contacter tout le monde en moins d'une heure. Et voilà, donc c'est super pratique, surtout quand on a des clients qui sont pressés. Ça permet vraiment d'avoir une portée.
Alors du coup, c'est un métier qui se généralise un peu ou tu restes quand même parmi des rares personnes?
Alors en fait, il y a énormément de consultants e-sport.
Ah ouais?
Si on va sur, je pense, sur LinkedIn et qu'on met consultant e-sport dans la recherche, on va avoir des milliers de réponses.
Ouais.
Mais il y en a très peu, en fait, qui valent vraiment quelque chose parce que beaucoup ont fait deux structures et disent ça y est, je connais un peu les codes de l'e-sport, je suis consultant, je vais conseiller des structures qui ont des millions de chiffres d'affaires parce que je suis un peu quelqu'un alors que pas du tout. Et c'est très très compliqué en fait de vraiment faire la part des choses, des consultants qui connaissent vraiment le milieu et qui ont une expérience derrière, et de ceux qui sont vraiment des opportunistes, des arrivistes, et qui vont faire payer 2 000 euros, puis disparaître, et puis revenir sur notre nom. Enfin, il y en a beaucoup. Donc, les gens comprennent le filon actuellement. Beaucoup en abusent. C'est vrai qu'il faut faire très attention quand on choisit justement son consultant.
D'accord.
Et c'est une chance du coup justement par rapport à ça, parce que du coup quand t'es sérieux, que tu fais bien les choses dans ce genre de milieu qui sont encore neufs et qui en plus sont exploités par des gens qui sont plus généralement jeunes en fait. Enfin,
ouais, clairement.
C'est assez entre guillemets simple d'être si t'es sérieux de quand même faire son trou, je pense.
C'est ça.
Nous à l'époque en tout cas de DigiWave, on a été souvent reconnus pour la qualité de nos émissions. Beaucoup de personnes nous disaient qu'on avait des émissions dignes de pro. Alors qu'en final, si tu remets les choses un petit peu dans le contexte, on faisait que trois morceaux de ficelle, quoi. Donc, au final, si t'es sérieux dans ce que tu fais et que t'es régulier, constant et que tu traites les choses de manière professionnelle, tu peux faire ton trou encore facilement. Mais il faut les compétences aussi.
Par contre, au premier problème, par exemple, à la première arnaque, premier un peu drama qui se passe sur une personne.
Ah, t'es mort, là.
Le milieu est tellement petit, en fait, que en deux secondes, tout le monde est au courant. Il suffit, par exemple, que quelqu'un arnaque de 3000 euros quelqu'un d'autre.
Ouais.
C'est posté justement dans le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout le monde est au courant instantanément. Et la personne, en fait, est blacklist d'une manière assez rapide.
Il y a des articles qui sortent aussi.
Ah ouais, mais
sur des streamers, là, qui.
Diesel?
Oui, voilà.
Ouais, le Lyonnais, ouais.
Ouais, qui était Lyonnais, d'ailleurs.
Mais je travaille avec lui, d'ailleurs.
C'est vrai?
Ben ouais, moi je savais pas. En fait, je savais pas. Et dès que ça a été posté, j'ai fait ah merde.
Et dire un peu les choses dans le contexte. Alors en fait, qu'est-ce qu'il avait fait exactement?
Alors en fait, Diesel. Enfin moi j'ai toujours vu qu'une personne un peu opportuniste, mais assez sympa au final, qui cherchait à monter une web TV sur Lyon et qui streamait. Et en fait, le problème qu'il a eu, c'est que pour se faire connaître, il faisait plein de giveaways, donc plein de loteries où il faisait gagner plein de lots, il faisait gagner des PC, des casques, plein de trucs super bien et super chers également. Sauf que en fait, on a appris qu'il donnait jamais les lots, que sur son stream, enfin il y avait des choses qui étaient un peu louches. Et en fait, ça a suffi pour faire un gros drama en fait, où il y a toutes les voix qui sont tombées contre lui, comme quoi il arnaquait plus ou moins les gens et il se jouait de sa fanbase. Comme j'ai dit tout à l'heure sur la gestion de communauté qui est super important.
Ouais.
Lui, il s'en est joué. Il y a des articles qui sont sortis, en fait, sur les sites spécialisés. Et à partir de là, il a été blacklisté de partout. Ça a mis une heure, je pense.
Moi, je l'ai vu, alors je m'intéresse pas forcément au milieu de très très près.
C'est ça.
Enfin, c'est incroyable, quoi. Si tu fais le moins de faux pas.
C'est exactement ça.
Mais après, faut aussi le vouloir, quoi. Enfin, si ça n'arrive pas par hasard non plus. Quoi.
Non, ça n'arrive pas par hasard. Voilà. Pour l'anecdote, je me souviens quand c'est sorti, en fait, moi, j'étais perdu dans les Pyrénées, dans un chalet, en vacances. J'étais en Edge. Et j'avais genre mes 10 minutes pour faire un post, mais vraiment sur les réseaux pour dire je fais pas partie de ça, s'il vous plaît, ne tombez pas dessus.
Ouais.
J'ai stressé parce que en fait,
ouais, bah oui,
si les gens revenaient sur moi, ils auraient pu tout mettre sur moi, en fait, dire c'est ta faute. Et j'aurais été cuit avec lui, en fait, même si j'avais rien fait. Et c'était terrible parce que j'ai eu un gros stress, surtout que j'avais pas de réseau, quoi. Je pétais un câble dans mon coin.
Ah, du coup, les choses vont plutôt vite.
Ah, mais c'est très très vite.
Franchement, j'aimerais bien continuer, mais là, on va devoir enchaîner. Je vais poser juste une dernière question.
Okay.
On va revenir sur Lucie. Donc, Lucie, si elle veut commencer avec toi, quelles sont les premières choses qu'elle doit faire et peut-être le premier conseil que tu lui donnerais?
Le premier conseil, déjà être régulier, comme on a dit tout à l'heure.
Ouais.
Vraiment, la première chose que je ferais, si vraiment elle débute, c'est tu lances ta TV, tu streames régulièrement pendant 2 mois, et dans 2 mois, on se revoit.
D'accord.
Et on voit ce que c'est devenu.
Est-ce que tu conseilles les gens sur leur manière qu'ils pourraient faire pour se démarquer par rapport aux autres streamers, s'ils ont, je sais pas, par rapport à leur personnalité, ou un jeu finalement qui serait plus adapté à eux, si à la base ils voulaient en faire un et qu'ils sont, je sais pas, peut-être moins bons sur un autre, mais qu'ils streament mieux ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu conseilles aussi par rapport à ça?
Ça dépend le type de stream que veut faire la personne également. Si elle veut vraiment faire, si une personne a un très haut niveau, qu'elle veut faire un stream de très haut niveau, je trouverais plus un stream qui va être très didactique, où la personne va apprendre aux gens, tout en étant toujours sympa. Mais après, c'est très compliqué pour une personne de ne pas être elle-même, en fait. Parce que ça se voit, parce que ça sonne faux, parce que tout ça. Donc, généralement, ce que je conseille, du moins pour commencer, genre les 2 premiers mois, c'est faites ce que vous aimez, comme vous êtes, et voyez si ça tient ou pas, et évitez les moments gênants. Voilà, c'est tout. Et puis après, on revoit après ce que ça donne et on fait le point, on fait des ajustements, tout ça. Mais c'est vrai que de toute façon, l'expérience vient en bossant, donc voilà.
Eh ben écoute, c'est très intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de te faire revenir ici, que tu puisses développer un peu tout ça et donner d'autres conseils. Là, on va se faire une coupure musicale. On va se passer. Alors, c'est une playlist aléatoire. Elle a choisi Grand Trèfle Auto 5. Voilà. Donc le thème. On revient dans un instant. Donc, on est ensemble de 12h à 13h. C'est l'ère du jeu. À tout de suite. Rendez-vous qui traite de jeux vidéo, de high-tech. Là, on a parlé d'e-sport avec Alexandre. Et sachez que vous pouvez retrouver donc les podcasts. Alors, j'ai eu un souci technique. Je vais vous raconter ma vie. J'ai un souci technique. Je n'arrive pas à mettre les vidéos sur Facebook en ce moment. Enfin, les sons. Mais vous pouvez les retrouver sur le blog de Radio Canu. Donc, vous êtes sur Radio Canu. Vous avez une session émission. Vous cliquez sur l'ère du jeu. Et vous pouvez retrouver donc les émissions. Je vais essayer quand même de corriger ça au plus vite. Mais je ne sais pas pourquoi ça bloque en ce moment. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le blog de Radio Canu pour d'ailleurs il y a pas mal de gens qui laissent des commentaires dessus aussi. Alors je suis pas toujours très réactif sur le blog de Radio Canu, je le suis beaucoup plus sur le Facebook, je m'en excuse, mais je vais corriger ça. Voilà, sachez que vous pouvez toujours réagir en direct via le hashtag R du jeu, RDUJEU, et que bah on va se refaire un tour de table pour dire les forces en présence aujourd'hui avec Griff.
Oui, bonjour.
Voilà, on a Lucie qui est avec nous.
Rebonjour.
Pierre Hakun, salut. Et donc Alexandre, donc salut. qui nous a parlé un peu de ce métier de e-consultant, non? Comment on dit? Consultant e-sport, je préfère.
C'est ça.
Ok, très bien. Alors plus que là, on était un peu sur l'e-sport, on va rester dessus et on va parler de l'e-sport et de la télévision. Parce que comme on l'a expliqué un tout petit peu avant, depuis 2-3 ans, l'e-sport monte fort, fort, fort. Et on commence à voir des programmes télé autour de l'e-sport.
Alors, il y en a 5 actuellement, il me semble.
Moi, j'en avais répertorié 3, je crois. Je sais qu'il y en a un sur Bein, il y en a un sur Canal.
Ouais, Canal Sport Club.
Ouais, on en a un sur...
SFR.
Sur SFR, c'est vrai.
Et un sur Game One, et je sens qu'il y en a un dernier, mais je
sais qu'il y en
plus.
Avait un sur l'équipe.
Ouais, peut-être.
Et c'est, c'est surtout celui-là qui m'a fait faire, qui fait un peu débat, parce que pendant un moment, donc effectivement, il y avait un petit magazine e-sportif sur l'équipe, qui marchait plutôt bien. Enfin, c'était même pas un magazine au début. Ils ont commencé avec une émission autour du foot sur FIFA, me semble-t-il. Et donc, ils ont toujours poussé l'e-sport, l'équipe. Et là, aujourd'hui, ils se rendent compte, ben, malheureusement, que l'audience ne suit pas.
Voilà. Surtout donc. Quand on parle de FIFA, quoi.
Ah, alors, voilà, déjà, première chose, alors, tu lances le débat. Tu penses qu'une compétition, à la télé, il faut certains jeux bien précis pour toi, ou, on peut essayer un peu tout. Surtout à la télévision, hein, qui est donc un média assez vieux.
Ouais, ouais.
Pas forcément celui qui est le plus regardé par ceux qui regardent ce genre de programme.
C'est ultra compliqué en fait comme question, mais j'ai commencé par paraphraser un ami à moi qui s'appelle Romain Tixier, qui est un autre consultant e-sport, qui dit qu'en fait FIFA c'est super bien en fait pour que les gens comprennent un peu l'e-sport, enfin qu'il y a des compétitions en fait juste pour comprendre, mais c'est pas du tout représentatif de l'e-sport en général. Parce que l'e-sport, c'est pas du tout une copie des sports traditionnels. Ça, c'est propre règle, comme League of Legends, des choses comme ça, où c'est du 5v5, avec des choses qu'on trouve pas du tout dans l'e-sport, qu'on peut pas retrouver, enfin, dans le sport classique, et qu'on peut pas retrouver. Donc, en fait, s'intéresser de base à FIFA,
ouais.
C'est cool, mais donc Romain a dit, en fait, se focaliser sur FIFA quand on parle d'e-sport, c'est comme se focaliser sur lancer de poids quand on parle d'athlétisme. C'est quelque chose qui est cool, mais qui représente pas le reste.
Ouais.
Et en fait, si on veut vraiment attirer le public e-sport de base, il faut savoir qu'ils ont complètement changé le média. Pas tous ont une télé. Enfin, ceux qui ont une télé, c'est ceux qui jouent à la console. Et encore, beaucoup sont sur PC en fait. Donc beaucoup vont regarder sur Internet en général.
Mmh.
Et concernant en fait regarder des compétitions à la télé, c'est compliqué parce que certes il y a des jeux comme FIFA par exemple qui ont un temps délimité par partie.
Ouais.
Donc c'est facile pour les coupures pub tout ça.
Mmh.
Mais quand on parle d'un jeu de League of Legends qui peut durer entre 20 minutes et 1h30 voire 2h, ou un BO sur CS:GO qui peut durer 20 minutes comme 3h, pour la pub c'est compliqué.
Ouais, c'est un peu plus compliqué.
Voilà.
Juste pour vous, alors du coup, est-ce que vous regarderiez par exemple un match de FIFA à la télé, toi Pierre Acouille?
Alors moi personnellement, je suis pas super fan de FIFA, donc
mais déjà
en se plaçant dans le, si je me plaçais en tant que personne qui est intéressée par le jeu vidéo en lui-même, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je l'expliquerai pas aussi bien, mais c'est vrai que tout le problème résulte pour moi aussi, je dirais, dans le format, parce que c'est très compliqué d'adapter. Ce schéma-là qui existe sur le web, qui est beaucoup plus flexible au niveau des horaires et au niveau de la manière d'amener le jeu par rapport à la télé, où on est quelque chose qui est beaucoup plus structuré sur ces plages horaires-là. Je pense que le problème se poserait là.
Après, ça se fait par exemple pour le tennis. Mmh. Après, le tennis, c'est un sport qui est beaucoup plus, c'est beaucoup plus regardé que les sports en général. Et le poker, mais là, qui passe à 1h du matin environ, quand pour les pubs, c'est moins contraignant.
Mmh. Toi aussi, tu penses pareil, Lucie, Gré, vous pensez aussi pareil que des jeux de sport, peut-être comme FIFA, à la télévision, finalement, c'est peut-être pas le mieux pour se lancer.
Moi, j'ai l'impression que c'est exactement comme ce que tu disais, qu'en fait, c'est juste... les gens aiment le foot, du coup, on va juste montrer le foot, mais dans le jeu vidéo. Ça témoigne pas forcément d'une vraie ouverture d'esprit sur le jeu vidéo. C'est juste, regardez, les gens aiment ça, et maintenant on va en parler, toujours parler de foot, mais autrement. Et c'est pas vraiment non plus parler de l'e-sport.
En général, oui.
Ouais, voilà, de ce que ça représente vraiment. Après, moi, j'ai pas de télé, donc je ne regarderai pas ces programmes.
Quoi qu'il arrive, je ne regarderai pas.
Mais c'est clair que regarder du FIFA, autant regarder du foot directement, et autant limite aller à un match de foot pour voir vraiment ce que ça donne en vrai. Enfin, je sais pas, c'est pas très
représentatif.
Moi, je trouve que l'avenir, en tout cas des compétitions de manière globale sur la télévision, j'en vois pas vraiment.
T'es beaucoup plus radical, tu penses que c'est mort.
Notamment. Souvent dans le sport traditionnel, il y a quand même un temps délimité, tu sais à peu près combien de temps les choses vont durer.
C'est ça.
Là, aucune idée de combien de temps va durer un match ou autre, jusqu'à que l'autre équipe soit morte, quoi.
Ouais, mais justement, c'est là où l'idée en soi d'utiliser FIFA était peut-être pas si mal que ça, puisque non, au final, t'as un temps délimité, c'est un sport que les gens connaissent.
C'est ça. Après, c'est vrai que généralement, quand on regarde les arguments, parce qu'en fait, il y a énormément d'équipes de sport actuellement qui se mettent sur FIFA. On pense au PSG, on pense à l'Olympique Lyonnais,
Au
FC Nantes, FC Monaco. Enfin bref, enfin l'AS Monaco plutôt. Enfin, ces équipes se mettent sur FIFA en fait, parce qu'en fait, ils désirent reconquérir les moins de 25 ans qui ont complètement lâché la télévision. Mais ça, c'est pas que franco-français. J'ai vu une étude marketing il y a pas très longtemps qui justement disait que bah, plus personne en fait des moins de 25 ans, enfin très peu de personnes regardaient la télé, et ce public ils n'arrivaient plus à l'atteindre. Et donc ils cherchaient par le sport électronique à le à aller le chercher de nouveau en fait, à, à le retrouver. Sauf que FIFA, c'est pas les gens qui ont vraiment lâché la télé, parce que comme j'ai dit, généralement c'est sur console, donc sur console il faut une télé, donc c'est un mauvais coup de faire ça, mais c'est plus facile à comprendre pour les gens. Et vraiment, s'ils veulent s'en servir, faire comme par exemple PSG qui a fait son équipe LOL directement, parce que c'est là qu'il y a le nouveau public en fait, c'est là qu'il faut aller le chercher.
Alors du coup, vous, est-ce que vous voyez pas, alors toi Griff, tu dis que tu vois pas d'avenir pour l'e-sport à la télé, faut savoir que dans certains pays,
je vois pas d'avenir pour les compétitions, la diffusion de compétitions. Par contre, les formats comme Canal+, Canal Sport Club, je trouve ça génial, parce que du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait vraiment des séries de reportages avec des interviews, un talk show, un plateau, et ça c'est exactement ce qu'il faut, parce que du coup, vu que c'est des moyens de télé, il y a vraiment des reportages vraiment sympas, qualitatifs, et du coup on a quelque chose qu'on trouve pas forcément sur le web. Enfin, tu le trouves, mais dans des articles de moins bonne qualité et tout. Là, c'est vraiment tout mis en image, les visuels sont super.
Il y a des reportages dans d'autres pays
c'est
également.
Ça. Alors si je me permets un petit moyens, comparatif, ça serait un peu le stade 2 de l'e-sport.
Oui,
c'est ça, c'est un peu genre c'est le téléphone de l'e-sport, c'est ça.
Mais je trouve que ce format-là a vraiment de l'intérêt, mais et encore, parce que tu vois, moi personnellement, j'ai toujours regardé sur YouTube cette émission-là, et pas du tout
c'est ça,
sur
la même,
Canal.
Moi, je regarde sur YouTube et pas sur Canal. Hein.
D'accord.
Et quand je la regarde, parce que c'est même pas sûr que je la regarde, perso.
C'est ça, ouais, mais malgré tout, je prends du chèque quand je le regarde, et je prends un moment pour le regarder, je sais que je passe un bon moment, que je vais apprendre des choses. Mais tu vois, ça n'existerait pas. Si demain il disait on n'est plus sur YouTube, bah je le regarderais pas. Je regarderais pas Canal pour autant. Quoi.
D'accord. Donc au final, ce que tu me dis, c'est que ceux qui ont fait un peu ce pari, alors que ce soit Bein, qui a une émission e-sportive, Canal Plus.
Bein a des stars avec vraiment. Il y a Lège et c'est Lège et Domingo.
Je crois, j'ai regardé une fois, j'ai préféré Canal e-sport Club.
Ouais, mais enfin, ça reste deux personnes différentes, parce que Canal e-sport Club, c'est JK Group, qui est vraiment déjà de base un groupe d'événementiel.
Ouais, c'est ça.
Qui fait des compétitions, et qui sont absolument excellents, ils font du taf de malade. Et à côté, sur Bein, ce sont des streamers, en fait. Ce sont des très gros streamers français qui présentent. C'est pas forcément, c'est très différent dans la méthode, dans la recherche, tout ça.
Alors, du coup, je vais poser une question à Pierre Akoun et à Lucie. Vous, qu'est-ce qui pourrait vous faire intéresser ou regarder un peu plus l'e-sport, au final? Est-ce que, si vous suivez ou vous suivez de base, toi, Lucie, non, pas trop? Sans
un
plus.
Petit peu, mais sans plus.
Et toi, Pierre,
de loin aussi.
Alors, qu'est-ce qui pourrait t'amener est-ce que ça serait des jeux, des streamers, une mise en place particulière qui pourrait t'inciter à regarder un peu plus tout ça?
Peut-être en premier des jeux, je pense. Parce que c'est vrai que je pense que la base, de toute manière, quand on va commencer à regarder quelque chose, ça va être par intérêt, par quelque chose qu'on aime, en fait, tout simplement. Hein. Et surtout à la télévision. En continuant sur le sujet, moi je regarde un peu de télé sur les trucs qui me plaisent, mais voilà, je regarde vraiment ce qui m'intéresse, et je pense que ça commencerait par là. Après, c'est vrai que si on arrive à avoir un format qui permet de moi, c'est un truc que j'aime bien, c'est arriver à faire connaître, à découvrir quelque chose, autant pour des personnes qui sont nouvelles face à ça, tout en apportant un contenu qui soit assez satisfaisant pour quelqu'un qui connaîtra le sujet sur le bout des doigts, quoi. Je pense que arriver toujours à trouver cette balance entre les deux, c'est ça qui pourrait potentiellement me plaire. Mais ouais, je dirais, ouais, quand même, le premier truc, c'est vrai que ça reste l'intérêt pour le jeu en lui-même. Ouais.
C'est vrai que c'est un équilibre qui est assez difficile, hein. Je crois que j'avais lu, d'ailleurs, il soulignait ce problème, je crois que c'était l'équipe qui disait, réussir à garder l'intérêt pour les joueurs qui sont purs et durs, tout en restant très accessible. A priori, c'est une gymnastique qui est pas du tout évidente.
Après, l'équipe a fait une sorte de mini drama sur ça, justement, il y a pas longtemps, où ils ont dit qu'ils s'arrêtaient plus ou moins, en fait, de parler d'e-sport parce que les audiences suivaient pas et tout. Mais, le problème, c'est que, j'ai pas vraiment suivi l'histoire, je suis très très loin. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, ils ont pas arrêté pour les bonnes raisons. Ah. Et en fait, ils se sont basés plus ou moins sur des préjugés ou des choses qui, en fait, n'était pas, enfin, qui n'avait pas lieu d'être.
C'était peut-être.
Quoi.
D'accord.
Donc, c'était pas assez, assez fondé. De ce que j'ai, vu, hein, de très loin.
D'accord.
J'y pense, juste comme ça, ça me vient de je me disais, c'est vrai que quand je parlais justement un peu du format de la présentation, par exemple, quelque chose que je regarde sans connaître du tout le vocabulaire technique, c'est par exemple sur les JO, j'aime bien regarder le border cross en ski, où on a les personnes qui vont, il y a les quatre qui se lancent comme ça en snowboard en ski, qui vont se mettre des grands coups presque pour essayer de se faire tomber les uns les autres, passer en premier, et en même temps, des fois, il va y avoir voilà, un petit peu de chauffe. Et derrière, il y a tout un vocabulaire technique qui va être utilisé. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est le côté angle caméra, de pouvoir connaître les actions un peu plus. Et c'est vrai que par exemple, LOL, pour prendre l'exemple de League of Legends, moi je sais pourquoi je regarde pas de l'e-sport League of Legends. C'est j'ai joué au jeu, je connais le jeu, j'ai pratiqué un petit moment. Mais regarder le jeu depuis l'écran joueur, en fait, depuis cette vue-là, de voir au-dessus, d'avoir des informations sur la carte, mais en restant dans ce côté justement où on n'a pas du tout de différence dans la manière de l'amener, moi ça m'intéresse pas forcément. Si on voyait par exemple quand on a le team fight, tous les personnages qui commencent à se rentrer dedans, à se mettre des grands coups, d'utiliser les attaques ultimes, etc. C'est vrai qu'avoir une vue différente de la perspective qui est utilisée, ça pourrait peut-être rendre le jeu plus dynamique en tant que viewer et pas en tant que joueur.
Et bah écoute, recommence à regarder parce que justement, ils ont tout changé la méthode de d'observation.
Je regarderai
où
ça.
Où il y a
alors.
Beaucoup plus d'informations, par exemple après qu'on ait pris le baron, quelle est la différence d'or qui a été faite, ils réanalysent les team fights sous différents angles avec des marquages, ils ont un tableau électronique et tout. Donc justement, regarde parce que c'est beaucoup plus dans l'analyse maintenant.
Ah bah, merci.
Du coup, toi Lucie, je t'avais posé la question, alors qu'est-ce qui pourrait te faire accrocher un peu plus à l'e-sport ?
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est surtout que à la télévision, ils diffusent, ou alors qu'ils produisent, si ça n'existe pas déjà, plus des reportages qui parlent de l'e-sport, mais correctement, pour vraiment présenter ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, mais pas les reportages.
Tu veux dire les émissions de grosse audience, pas les émissions spécialisées, du coup ?
Oui, voilà, mais qui serait bien fait. Enfin, comment je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir pour expliquer mon propos. Récemment, il y a eu, je l'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler sur YouTube, un reportage de Zone Interdite, je crois, sur le tatouage. Oui. C'était le week-end du Mondial du tatouage, donc on se dit bon, ils vont montrer le Mondial, ils vont montrer ce que c'est, les pratiques, les bons tatoueurs et tout ça. Pas du tout. Très vite, ça a bifurqué sur Nabila a enfin grandi, elle se fait détatouer. Wow. Comment résumer tout un art et toute une pratique qui a de vrais enjeux et que les gens font ça par passion en
et de
juste,
plus en plus
voilà. Oui, en plus je crois que le titre c'était tatouage un truc genre phénomène de mode ou avec autre chose genre juste pour dire que c'était quelque chose qui était complètement futile, un peu éphémère et tout ça, alors que c'est une pratique qui est aussi vieille que la civilisation et qu'elle a connu plein d'évolutions. Enfin, il y avait une très bonne expo au musée du Quai Branly sur le tatouage et tout, tatoueur tatoué, mais c'était avant.
Donc. Ils ont résumé ça à quelque chose de people en finale.
Voilà, que par exemple, cette exposition, elle retraçait vraiment toutes les pratiques sur les différents continents, les différentes façons qui ont été perçues sur cet art-là. Bon, je bifurque, mais bon, voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait ou alors des vrais. Des reportages ou des vraies expositions sur l'e-sport, que les médias s'intéressent un peu plus à ce que ça représente au niveau de ces enjeux et pourquoi les gens s'y intéressent plutôt que de faire juste du putaclic entre guillemets.
C'est terrible parce qu'ils déconstruisent en deux secondes auprès d'une autre population qui ne connaissent pas forcément ce milieu ce que nous, on met des années à faire. Quoi.
D'où le débat, justement, est-ce que l'e-sport est un sport quoi. Parce que ce débat, c'est beaucoup plus un débat de légitimité des gamers, en fait. Regardez ce qu'on fait, il y a toute une organisation derrière, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'efforts et tout. Et c'est pas juste des gens qui sont qui ont des problèmes socialement, qui restent chez eux, qui bouffent que du McDo et tout ça, quoi. En fait, on aimerait dépasser ce sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont pas forcément bienveillantes et qui, à la place, cherchent à comprendre. Il faut plus vraiment clasher le joueur en le dénigrant et en le rabaissant, alors que c'est pas du tout ça. Et c'est vrai qu'après, ils le font de moins en moins parce qu'en fait, pendant longtemps, ils le faisaient parce que justement, c'était du clic facile en fait. Les gens, tout le monde s'énervait, tout le monde s'offusquait, voilà, c'est terrible, sauf que eux, ils avaient plein de vues, c'était trop bien. Et maintenant, ils arrêtent parce que justement, en fait, ils commencent à faire des émissions sur le sujet. C'est comme Canal qui a fait un gros bad buzz sur ça, ils étaient obligés de s'excuser en moins de 48 heures parce qu'il y a une grosse défense.
C'est défoncé par la communauté, oui, sait que la communauté, elle est assez réactive en plus.
Très réactive, mais c'est ça le débat en fait. L'enjeu du débat, c'est pas vraiment savoir si l'e-sport est un sport en tant que tel. Parce que
passions en fait, tu touches des passions, des gens qui sont passionnés et qui se battent tous les jours.
Et qui veulent une légitimité, c'est ça en fait la question.
Reconnaître.
C'est ça, ça cherche une légitimité plus que vraiment, c'est un sport, on s'en fiche un peu quoi.
Très bien, beaucoup de choses à dire sur tout ça. Malheureusement, on va devoir faire une petite coupure musicale. Très rapidement, on va se passer une musique de Donkey Kong Country issue du jeu Super Smash Bros. On revient dans un instant. C'est l'ère du jeu, n'hésitez pas à réagir. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite dédicace particulière à Joe. Donc Joe qui vient souvent ici, qui est en train de faire les 24 heures de la BD, je crois. Et donc bon courage mon gars, on est avec toi. Allez, on revient dans un instant. On va se passer donc la musique de Donkey Kong Country Return issue du jeu Super Smash Bros. À tout de suite. Rendez-vous donc qui parle de jeux vidéo, de high tech. On a pas mal parlé d'e-sport. Là, on s'est fait un petit débat sur les musées. Tiens, c'est vrai, on en a pas assez parlé. On fera une émission dessus.
Si vous faites une émission, n'oubliez pas de m'inviter.
Ah bah oui, carrément. Je le note. Tu vois, émission sur les musées et les jeux vidéo, et même sur les expériences. Parce que là, tu étais en train de parler d'un truc qui est trop cool, Pierre.
Ouais, ouais.
Sur un manège à sensations fortes avec un casque de réalité virtuelle. Ouais. Ça, je le note. Il faut qu'on en parle la prochaine fois que tu viens.
Pas direct. De souci. De toute façon, il y a des choses à dire avec le Japon. J'en ai vu, je paye du jeu vidéo un petit peu quand même.
C'est clair, là ça me laisse rêveur. Là on va se faire rapidement un petit sac de news parce que je crois, il me semble qu'il y a déjà les gars du Petit Bazar, donc l'émission qui vient juste après, qui sont déjà dans leur place. Alors rapidement, très rapidement, on va parler série. Voilà, une nouvelle série qui va arriver. Alors normalement à l'heure actuelle, la vidéo est diffusée sur le Facebook de Game Edge, donc vous pouvez le voir. C'est une série issue d'un manga assez connu qui s'appelle Death Note, voilà.
Ah oui.
Et voilà. Et donc, ils vont faire une série live action, donc avec des vrais acteurs. Il me semble que c'est américain ou quelque chose comme ça.
Tu parles de la gueule, qu'il y en a deux, en fait, qui ont été annoncés.
Ah ouais?
Ouais.
Le gars qui me contre
news quoi.
Tu sais, je fais ma news, je suis content, il me dit non mais attends, il y en a deux. Ouais, il va y avoir deux séries du coup.
Il y en a deux, ouais.
Et ça, alors du coup, c'est un manga qui a été assez culte, hein, Death Note. Il y a une moins d'une dizaine d'années, je dirais 5-6 ans. Et bah bien entendu, hein, les Américains ont mis un peu le nez dedans pour en faire quelque chose. Donc vous pouvez voir le teaser donc sur la page Facebook de Game Edge. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça, vous? Alors si vous avez suivi un peu Death Note, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou ils auraient dû en rester à l'anime? Alors Lucie, puisque je te vois hocher la tête.
Moi je suis pas forcément pour qu'on reprenne encore et encore les choses qui ont eu du succès. Enfin, moi j'étais extrêmement fan de Death Note, de l'animé du coup. Et
jusqu'au jour terrible où elle a vu les films.
Voilà, jusqu'à un fameux réveillon où on a regardé les films avec les vrais acteurs. Et là ça m'a complètement détruit toute mon adolescence et j'étais déçue. Enfin voilà, donc
je suis assez
sceptique, très sceptique.
D'accord, tu regarderas quand même le teaser, tu nous diras ce que t'en penses.
Ouais, je regarderai.
Et du coup Alexandre, tu nous disais qu'il y en a deux.
Ouais. Il y en a un justement qui est américain, qui est fait par Netflix.
Ouais. Oui, c'est ça, Netflix. Netflix, c'est quand même plutôt un bon réalisateur.
J'ai jamais été déçu par une série Netflix.
Ouais, il paraît qu'ils sont très bons.
C'est pour ça que j'ai pas mal d'espoir là-dedans. Mmh. Mais il faut complètement se détacher en fait de l'anime et du manga en général, parce qu'ils ont tout renommé en fait. Genre, il s'appelle Light Peter ou un truc comme ça. Ils ont tout américanisé.
Apparemment, le seul qui reste encore japonais, c'est le majordome de L.
D'accord. Okay.
Et c'est le seul.
Donc, alors le petit clin d'œil, voilà.
C'est ça. Donc, faut vraiment, je pense, se détacher et l'apprécier comme œuvre à part entière.
Mmh. Et comme beaucoup de films, d'ailleurs, tirés de jeux vidéo.
C'est ça.
Voilà.
Il faut vraiment le truc de base, que si on fait les puristes, c'est que là, on va être déçu, quoi. Mmh. Mais, et il y a l'autre qui est sorti, justement, qui est là, lui, qui est japonais. Ah, où, en fait, là, il y a 6 Death Note qui sont lâchés dans Tokyo et c'est les premiers qui ont les 6.
C'est un nouveau truc.
C'est un peu Koh-Lanta en fait.
C'est ça.
C'est Koh-Lanta version Battle Royale.
Une réécriture de l'animé, moi je suis plutôt prête à regarder si ça va plus loin. C'est juste une pâle copie version américaine, là je vois moins l'intérêt. Ouais.
C'est un truc en plus en fait qui s'est passé mais qu'on n'a pas vu dans l'animé, tu vois, genre truc classique. Pour dire, bon en fait ça y est.
Voilà. Mais moi, je veux vraiment avoir ton avis parce que, comme il l'a dit, Alexandre, les séries Netflix sont plutôt bonnes. Donc,
Après, je sais qu'il y a quelques exceptions parfois sur Netflix, mais globalement, c'est vrai qu'elles sont excellentes. Mais là, je sais pas.
Allez,
j'ai souvent l'impression que en Amérique, c'est juste, ils arrivent pas à regarder les choses qui viennent d'autres pays. Ils ont toujours besoin de les américaniser et de les reprendre chaque fois.
Tu vas nous lancer le débat. Voilà, tu vas nous lancer le débat de Ghost in the Shell.
C'est terrible.
J'attends qu'il sorte au cinéma pour le voir et puis je pense qu'on en reparlera. Là, alors toujours dans les séries, on a une autre série qui va bientôt débarquer. C'est une série Assassin's Creed. Voilà, ils ont tenté le film. Le retour a été plutôt mitigé.
Plutôt, oui.
Et là, ils vont se lancer donc bientôt dans une série télé. Est-ce que vous pensez que c'est bien que Ubisoft continue à exploiter sa série, notamment sur un média comme la télé, ou vous pensez qu'ils en font un peu trop
C'est un univers qui a quand même du potentiel, je pense, en série.
C'est ça, clairement.
Je pense aussi.
Ils ont quand même moyen de faire quelque chose d'assez sympa, je pense.
Je pense, et puis après, si ça démocratise le jeu vidéo en général, moi je suis pour, hein.
Oh, c'est vrai que ça pourrait faire une bonne. Ils avaient déjà fait une sorte de web série, hein, d'ailleurs, qui était pas trop mal, Assassin's Creed. Et là, donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Ça devrait arriver prochainement.
Bah, vu l'univers d'Assassin's Creed, ça s'y prête bien, le multimédia, de toute façon. Mm.
Je pense que ça sera un peu un secret d'histoire, mais version jeu vidéo.
Stéphane Bern, quand cagoule et tout.
Stéphane Bern est cosplayé. J'ai envie de voir ça. Mais pour revenir aussi sur le film, je l'ai pas vu, mais je sais que beaucoup de gens disaient qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il montrait beaucoup plus le vécu à l'extérieur de la machine, je sais plus comment
c'est ça, l'animus.
Voilà, et que du coup, il fallait vraiment le voir comme quelque chose à part entière et se détacher vraiment de l'expérience du jeu vidéo. Donc après, s'ils arrivent à adapter ça en série, en faisant ça, je sais pas, comme pour parler de l'histoire en général sous forme d'épisode, je pense que ça peut être très intéressant pour en plus intéresser les jeunes générations à ce genre de choses, quoi. Par exemple.
Très bien.
Par exemple.
Et affaire à suivre là-dessus. Est-ce qu'on a le temps de se parler de la Switch? Je vous dis juste deux mots sur la Switch. La Switch, elle a plutôt eu un bon accueil, un très très bon départ. Hein? Pardon?
Et plus de deux mots. Non, mais vas-y, enchaîne.
Nintendo est plutôt content. Maintenant, il commence à avoir quelques retours négatifs, notamment sur certaines pièces de la Switch. Voilà. Ouais. Vous en pensez quoi de la Switch rapidement maintenant qu'elle est sortie? Elle vous tente ou elle vous tente pas du tout? Alexandre.
Perso, moi je suis pas joueur, donc elle me tente pas.
D'accord. Toi, Pierre Akoun. Ah, toi, Pierre Akoun.
Ah, alors... bah, quand même, c'est un petit peu mon sujet, là.
Ah, bah oui. J'en ai acheté trois Day One.
Alors, je vais le faire rapidement. Comme ça, au moins, c'est tranquille. Changer la place de la prise de rechargement pour qu'on puisse jouer normalement et pas la surélever sur un truc quand on veut jouer avec la batterie branchée en même temps.
Ouais.
Faire un truc qui évite de rayer l'écran. Et moi, j'attends qu'ils réduisent le prix et que le catalogue soit plus complet, mais je vais l'acheter, ça c'est une certitude.
D'accord. Toi, Lucie, elle te tente cette console ou pas du tout?
Je donne mon joker, j'étais même pas au courant.
Donc, ça ne l'intéressait pas, visiblement. Toi, Griff? Toi, en plus, t'étais plutôt emballé, hein, par
Je suis bien emballé, mais, bah, y a pas de jeu, quoi, donc,
Oh, Zelda, ouais. Mais bon, c'est vrai que, bon, on a
Mario Kart 28, V2, enfin, voilà, quoi.
Allez, on va se faire, un petit tour de table, là, rapidement, pour voir où on peut trouver vos actualités, savoir, où on peut, ce qu'on peut vous trouver. Honneur à l'invité. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on fait pour te contacter?
Alors, pour contacter, il y a tout sur mon site web. C'est à www.apsy.ninja. Donc, apsy, c'est A-B-S-Y, et le point ninja à la fin.
Point Ninja.
Ça,
point
ça pète un peu, là.
Ninja, quoi. C'est le point TV, le point com, le point Ninja. Point ça, ninja. C'est nickel. Ok. Est-ce que t'as, sur les réseaux sociaux aussi, on peut te suivre ou pas?
Ouais, @muralexandre, M-U-R-E et Alexandre, comme tous les Alexandres.
D'accord. Toi, Pierre Akoun, une actualité pour un particulier?
Ouais. Du coup, j'ai lancé ma chaîne perso de vlog autour du Japon.
Ah yeah, donc cool.
N'hésitez pas, parce que pour l'instant mon audience est faible, donc
j'ai recruté des viewers. Est-ce que tu m'as consultant?
c'est sur YouTube.
Sur YouTube, juste à taper Pierre Akoun, tout simplement le nom de la chaîne tel quel. Il s'appelle les vlogs. J'ai mis des noms, puis sinon l'intitulé c'est le Frenchie à Fukui. Parce que j'habitais dans la ville de Fukui.
Alors j'écrirai le lien sur Facebook parce que. J'ai plusieurs fois écorché ton nom. Je sais qu'il y a des yeux qui ont saigné. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de problème. Lucie, toi, non, si, quelque chose, une petite actu, je ne sais pas.
Ah, moi, accessoirement, je suis étudiante en graphisme. Donc, voilà. Si vous voulez aller me voir, voir ce que je fais sur mon site.
Ah, bah oui, carrément, ouais.
c'est lucieemar.com. Voilà.
Toi aussi, sinon, je prendrai ton nom et je le noterai, comme ça les gens pourront y aller.
Ouais, parce que ça s'écrit pas comme à la française, en bref.
Emard, du coup, comment tu l'appelles?
Ouais, H-E-M-A-R-D. Et Lucie, c'est I-E, pas Y.
Attention, hein.
Attention. et sinon, sur mes réseaux sociaux, c'est louch_2. L-O-U-T-C-H, tiré du bas, 2. Voilà.
Ok. Quant à toi, Griff, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur Twitter, Griff MCPG, G-R-I-F MCPG, et puis sur Minecraft Pro Gaming. Cet après-midi, je salue mes collègues qui vont faire la qualification numéro 1 du tournoi en équipe, de l'Archibox Challenge sur Minecraft Pro Gaming. Donc ça sera en live sur la chaîne YouTube Minecraft Pro Gaming ou minecraftprogaming.com.
Ok, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Sachez que moi, vous pouvez me retrouver donc sur Basket Tout Terrain, la page Facebook, voilà, où on parle de basket avec Griff, hein, qui est avec là, toujours avec moi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On fait la place au Petit Bazar. Allez, passez un excellent week-end. Restez et écoutez, le Petit Bazar, vous allez voir, c'est de la balle. Allez, ciao ciao.
Salut.
Salut.
Ciao. Salut.